Alors, on est parti pour trois séquences d'échanges donc avec nos grands témoins. Et vous aurez droit à une question par grand témoin. Voilà, donc c'est moi qui vais commencer par poser les questions et ensuite, vous pourrez en poser une. Et sur chaque témoin, en fait, on va revenir sur une des trois thématiques qu'on a évoquées ensemble. Donc, la cartographie en continu du territoire, les communs et puis cette participation à un écosystème cartographique. Donc, je vais commencer par inviter Madame la députée, Huguette Tienia, si vous voulez bien me rejoindre. Donc, vous êtes, vraiment merci beaucoup de votre venue, vous êtes députée de la deuxième circonscription du Lot et vous présidez le groupe d'études Économie verte et économie circulaire à l'Assemblée nationale. Plus récemment, vous avez été la vice-présidente de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi climat et résilience jusqu'à sa promulgation le 24 août dernier. Dans ce cadre, vous avez été particulièrement investie sur le thème de la résilience des forêts, comme ça a été rappelé par la présidente, et du changement climatique. L'immense défi de connaissance que nous impose l'Anthropocène font des territoires des alliés précieux pour mesurer et suivre les changements rapides de nos environnements. Alors, je vais commencer par une première question, compte tenu de votre connaissance des territoires, et notamment du Lot. Donc, les territoires sont ancrés dans les réalités quotidiennes, évidemment, souvent plus que nous à Paris. Pourriez-vous dire concrètement quels sont les besoins actuels et futurs des territoires en matière de données environnementales ?
Merci pour votre question. Donc, Madame la Présidente qui est partie, donc vous, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration de l'IGN, Mesdames et Messieurs, vous tous ici présents, bonsoir et je suis moi aussi ravie de répondre à l'invitation de l'IGN pour pouvoir parler d'un sujet qui nous concerne et qui existe depuis la nuit des temps. Députée du Lot, donc la deuxième circonscription du Lot, je me suis beaucoup investie sur les sujets liés à l'économie circulaire, mais plus globalement à l'écologie, et sur la question des territoires et des changements climatiques, bien sûr, la cartographie joue un rôle essentiel. Bien sûr, les besoins de nos territoires, c'est que, si je prends l'exemple du Lot, on est un territoire qui est en grande partie touristique et qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi le développement du tourisme vert. Ça veut dire quoi? Que quand les gens viennent visiter le Lot, il y a aussi une partie de visiter la nature parce qu'il y a une richesse à découvrir. Au-delà des atouts d'utilisation des forêts dans le quotidien des Français, la forêt, comme on le sait, c'est aussi celle qui joue un rôle intéressant pour l'écologie, à commencer bien sûr par la protection de la biodiversité. À côté de cela, on rajoutera bien sûr le volet agricole. Et dans nos territoires, si on parle des collectivités, ils ont aussi besoin de cette cartographie-là pour pouvoir s'adapter aux nouvelles politiques publiques que nous votons, notamment à l'Assemblée. Et sur le volet de la transition écologique, vous avez parlé d'un sujet important, c'est l'artificialisation des sols. Dans le projet de loi climat et résilience, il y a eu le volet, un énorme volet, il y avait beaucoup d'amendements sur la forêt, même si beaucoup ne sont pas passés, c'est aussi dans la perspective des assises de la forêt qui devaient se tenir. Donc, nos collectivités ont besoin de cartes pour arriver à identifier les besoins qui vont les données qui vont leur permettre de construire des nouveaux lotissements, de savoir si c'est possible de faire une retenue d'eau, parce que on est aussi dans des territoires où il y a la sécheresse, ça c'est surtout pour les agriculteurs. Ils ont également besoin d'une cartographie pour pouvoir être sûr que les données qu'ils vont transmettre, les données de leurs concitoyens qui vont aller sur des plateformes seront préservées. Mmh. Et c'est là aussi que le rôle de la cartographie publique est assez intéressant. Nous avons aussi besoin de cette cartographie pour nous orienter. Nous en avons besoin pour la formation de la jeunesse. Si je prends l'exemple du parc naturel du Quercy que nous avons dans le Lot, aujourd'hui, l'innovation, ce serait quoi? C'est que quand je vais visiter un parc, que je puisse, par exemple, trouver où se trouve, situé sur la carte, où se trouve une poubelle pour recycler les déchets que j'aurais produits sur place. J'aurais aussi surtout besoin, pour des sujets d'éducation, peut-être connaître la biodiversité qui existe dans le parc. Généralement, ce sont des informations qui sont écrites sur des panneaux, mais pour la jeunesse qui est aujourd'hui connectée à Internet, ce seraient aussi des informations pertinentes qu'on pourrait trouver sur des cartes. Mais bien sûr, c'est un gros défi, c'est une transformation pour vous, et c'est justement que je voulais vous dire... Dans votre discours, ce sont des choses qui vont venir, mais on sera aussi là en tant qu'acteur public pour vous accompagner dans ce sens-là.
Merci beaucoup. La deuxième question que je voulais vous poser, vous l'avez déjà un petit peu effleurée. C'est finalement, pour nous, la question, c'est, bon, il y a des besoins des territoires. Nous, on se demande aussitôt, bon, est-ce qu'on est utile dans cette histoire? Parce que c'est vrai que les territoires se sont énormément mobilisés, ont énormément investi sur la connaissance de leur propre terrain. Donc, quel est l'espace pour un institut national dans ces coopérations? Est-ce qu'il y a un enjeu de mettre en réseau les acteurs? Est-ce qu'il y a un enjeu de se dire qu'il y a des territoires qui sont peut-être plus avancés, plus riches que d'autres, plus simplement structurés comme une région ou une métropole par rapport à une petite commune, et que donc il y a quelque part un sujet d'égalité et d'accompagnement des collectivités plus modestes? Où peut se situer selon vous l'action d'un institut comme l'IGN?
Alors, un institut comme... IGN, pour moi, a de la valeur ajoutée parce que c'est un organe public qui, d'année en année, est capable d'innover et s'adapter aux besoins des territoires. Ce n'est pas le cas d'autres organismes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Google ou Apple, qui, eux, ils font des produits commerciaux qui évoluent en fait en fonction de leur marché. Et dans notre pays, on a la question, bien sûr... de la préservation des données de nos concitoyens. Mais puisque nous sommes aussi engagés sur la transition écologique qui a un effet de plus en plus majeur sur notre pays et aussi à l'international, les collectivités qui sont soumises justement aux contraintes des innovations et qui sont soumises aux contraintes de la disparition de certaines espèces sur leur territoire, ils ont besoin d'avoir de nouvelles informations pour pouvoir mieux gérer. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'ils ont aussi besoin de travailler avec l'IGN, l'IGN pour justement pouvoir s'adapter eux aussi aux nouveaux besoins. Okay. Si je prends l'exemple du volet aménagement des territoires, au-delà de l'aspect touristique, nos collectivités... Et c'est eux aussi qui font des nouvelles constructions ou qui font de l'aménagement d'anciennes constructions. Il faut se mettre aussi à l'évidence face à certaines réalités. Normalement, si on regarde la cartographie d'année en année, on connaît les historiques des innovations. Mais là aussi, vous l'avez souligné, pour pouvoir voir tous ces changements en temps réel, nous ne sommes pas aujourd'hui capables de les faire. Et c'est sur ce terrain-là aussi qu'une... Okay. coopération avec l'IGN à travers des outils technologiques performants comme l'intelligence artificielle que vous avez souligné peut justement être quelque chose de très important pour les collectivités. Mais au-delà de tout ça, on va parler des moyens. Bien sûr, l'IGN est un service public, mais vous avez aussi besoin que l'État mette des moyens sur des engagements qui seront pris peut-être dans le sens de la feuille de route ou dans le sens en tout cas des conclusions qui seront définies à la fin des assises des forêts pour pouvoir bien vous accompagner dans la durée. Parce que vous le savez, si on considère que chaque collectivité doit investir dans une cartographie particulière, ça va être coûté. Et ça va être coûteux et prendre du temps, alors que si c'est un investissement global de la part de l'État pour les accompagner, ça peut aller vite parce que face à l'effet du changement climatique, on a besoin aussi d'accélérer notre capacité à mieux faire.
Merci beaucoup. Je vais prendre une question de la salle sur cette thématique, si vous voulez, hein, vous ne sentez pas obligé, sur cette thématique de l'observation du territoire en continu, donc par rapport à ce qu'a indiqué la députée, ou si vous souhaitez que je revienne sur un élément que j'ai présenté, enfin comme vous voulez, quoi. Vous avez l'opportunité d'une question. Il n'y aura que 3 questions en tout, donc si vous voulez les poser, c'est maintenant.
Donc, eh bien, j'ai tout dit alors.
Ils sont timides. OK. Très bien. Merci beaucoup, Madame la députée.
Alors, merci à vous.
Juste avant, Chloé, j'en profite pour dire, je ne sais plus si je l'ai vraiment bien précisé, mais notre proposition sur l'Observatoire de la forêt, c'est d'en faire, j'ai pas envie de dire un commun, parce que j'ai pas envie de galvauder le mot, mais c'est d'en faire un projet entre tous les acteurs de la forêt. Parce qu'il y a un enjeu qui est compliqué sur la forêt, c'est qu'il y a des polémiques qui surviennent sur des sujets, comme par exemple les coupes rases, et on a du mal à avoir, je dirais, un endroit où on peut discuter un petit peu rationnellement de ces sujets-là sur des données, et c'est aussi une proposition qu'on fait dans cet observatoire. Je referme la parenthèse. Et donc, je vous propose d'accueillir Chloé Claire. Donc Chloé Claire, qui est la directrice générale de Namer, donc qui est une start-up, on ne parle que de Namer ces derniers temps, ça doit être depuis votre arrivée, donc qui est spécialisée, mais tu le diras, enfin vous le direz mieux que moi, pardon, on se connaît un peu, donc bon voilà, on a fréquenté les mêmes écoles, c'est terrible. Donc c'est une start-up qui propose des solutions à base de données, en utilisant des données de différentes sources, notamment dans le domaine du bâtiment, des territoires et de l'environnement. Alors, vous avez développé un business model qui s'appuie en partie, comme je viens de le dire, sur l'accès à des données ouvertes et des données publiques. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la façon dont vous utilisez et valorisez ces données ?
Bonsoir à tous. En effet, Namer, c'est notre vision, c'est de décrire le monde physique par la donnée. Donc ça pourrait être un peu la même vision pour l'IGN. Et c'est de là qu'on tient notre nom, parce que décrire, c'est nommer. Donc Name Reality, Namer. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de prendre ces communs, justement, toutes ces données en open data, et de les travailler, de les géolocaliser, et par-dessus, de créer une nouvelle donnée qui est enrichie via ce croisement des données. Donc par exemple, des données de l'IGN, nous allons évidemment utiliser la base de données ortho et topo, et en les croisant, nous allons par exemple reconstituer intégralement les formes en 3D des toitures, qui vont nous permettre par exemple de calculer un potentiel solaire pour un bâtiment. Donc lorsque l'on crée en fait chez Namer énormément d'informations sur les bâtiments et les territoires, nos clients et principalement des collectivités ou bien des propriétaires de parcs immobiliers vont pouvoir s'en saisir pour en fait pouvoir modéliser des trajectoires d'efficacité énergétique ou de transition écologique grâce à ces données. Car avoir des données, bien sûr, c'est mesurer, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sur en fait quand on discute, quand on veut programmer, évidemment, lorsqu'on a des véritables données, ben, on est beaucoup plus sûr de ce qu'on peut faire et c'est cela qu'on fait. Et donc sur le croisement des données, on voit l'enrichissement qu'il est possible d'avoir à partir de, entre guillemets, une simple BD ortho, donc d'imagerie aérienne de la France. Nous, on est capable d'aller faire énormément de choses, de faire des ratios de surface végétalisée, je vois que vous le faites aussi, évidemment, sur différents sujets, et ensuite d'aller recroiser toujours avec d'autres choses, avec d'autres informations, ce qui va pouvoir enrichir ces communs et aller beaucoup plus loin. Et aussi, finalement, créer de la valeur, créer des business. Nous, Namer, nous existons grâce à la présence de personnes publiques qui mettent en commun des données et à laquelle nous, on va ajouter encore de la valeur ajoutée pour ensuite aider encore d'autres entreprises ou d'autres entités publiques à se transformer.
Merci beaucoup. Ça m'amène à ma deuxième question, qui est effectivement celle du business model. C'est-à-dire que bon bah c'est super, ce foisonnement de données ouvertes, les communs, tout ça, tout le monde accède à toutes les données, mais vous, à la fin de la journée, vous avez quand même besoin de gagner de l'argent. Voilà. Alors, nous aussi, mais il se trouve qu'on a un modèle économique, comme je l'ai dit tout à l'heure, où ce sont ces grands plans qui viennent nous financer. Vous, c'est évidemment pas votre cas. Donc du coup, comment vous voyez ça? Concurrence publique-privée, alliance, sous-traitance, comment est-ce qu'on peut sortir de ça?
Je pense que si c'était de la concurrence, ce serait dommage. Je pense que chacun a sa place. On en parlait tout à l'heure, nous on a des capacités par exemple sur de l'IA, sur tout ce qu'on fait c'est en machine learning, donc qui vont permettre d'accélérer certains projets de transformation que vous avez, donc on pourrait très bien venir vous aider, et c'est ce qu'on peut faire déjà avec d'autres entités, mais aussi travailler en partenariat, c'est ce qu'on fait déjà d'ores et déjà avec nos clients, qu'ils soient publics ou privés, ils vont prendre nos données, et souvent les corréler avec leurs propres données métiers, leurs propres données industrielles, ou en tout cas rajouter eux-mêmes leurs connaissances par-dessus. Donc en fait, là, la question, en fait, elle devient celle du make or buy. Chacun choisit de se spécialiser dans un domaine, dans une niche, où en fait il va mutualiser le savoir et le travail pour tous, et ensuite chacun il va ajouter son métier. Okay. Donc je pense qu'en effet, il ne faut pas qu'on aille vers la concurrence, et tu le disais tout à l'heure, l'État n'est pas obligé de tout maîtriser. Par contre, clairement, de donner les règles, de donner des lieux et des places où on partage des communs, des lieux et des places où on donne des communs pour que d'autres valeurs puissent s'ajouter, ou des lieux et des places où on travaille tous ensemble de manière très collaborative. Et je pense que okay. Là, ça fonctionne bien.
Super. Merci beaucoup. Je me tourne vers la salle. Pareil, donc sur cette deuxième thématique des communs, est-ce qu'il y a une question? Le sous-entendu, c'est que vous avez tout compris à ce qu'est un commun, ce qui... Il y a une question. Ouais.
Bonsoir, Alain Gervais de l'IGN. J'aimerais savoir si vous travaillez au niveau du mondial ou c'est uniquement sur la France.
Au jour d'aujourd'hui, on travaille uniquement sur la France. Mais étant donné que la régulation sur l'open data est une régulation européenne, il y a beaucoup d'open data en Europe, donc nous attaquons actuellement l'Europe. Alors il n'y a pas toujours des IGN, mais, et pas toujours de bases de données aussi bien organisées, mais en tout cas, il y a de l'open data, et donc en fait, le modèle est tout à fait réplicable en Europe, et si on sort d'autres pays, comme il n'y a pas de RGPD, les données sont encore plus larges, mais aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur l'Europe dans un premier temps.
Super. Merci beaucoup. Merci Chloé Claire. Et donc j'accueille notre troisième intervenant, Adrien Guettet. Donc vous êtes enseignant-chercheur en géographie de l'environnement à l'ISTOM, l'école supérieure d'agro-développement international à Angers. Vous êtes également co-auteur de la première carte dite de la France sauvage. On a tous hâte de savoir ce que c'est. Présenté notamment à l'occasion du Congrès mondial de la nature en septembre 2021. Alors voilà, je commence par cette première question que j'ai déjà quasiment brûlée. Pouvez-vous nous dire pourquoi une carte pour représenter la France sauvage ?
Oui, alors bonsoir à tous. Avant de répondre peut-être à cette question, le point de départ finalement de la réflexion, c'est le constat partagé avec plusieurs de mes collègues scientifiques, de se dire que finalement, effectivement, on parle très souvent, et on l'a fait ce soir, de phénomènes donc d'artificialisation du sol, d'anthropisation des paysages, de disparition des espaces naturels, des espaces sauvages. Pour autant, en fait, les outils qu'on dispose pour mesurer ces processus, ces phénomènes qui sont à l'œuvre, en fait, sont encore aujourd'hui extrêmement lacunaires, même si c'est on l'a vu, c'est en train de changer. Pour autant, au moment où on a eu ces réflexions, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ces outils sont extrêmement lacunaires pour vraiment mesurer ces dynamiques qui sont à l'œuvre. D'où l'idée qu'on a eue donc, d'initier ce projet donc avec plusieurs collègues scientifiques et puis l'Union internationale pour la conservation de la nature, de créer une carte pour, à l'échelle de la France métropolitaine, et pour le dire très simplement, pour dessiner finalement les contours de ces zones de nature sauvage, et finalement de dresser une photographie, on peut dire, à l'instant T, donc aujourd'hui, en 2020-2021, une photographie à l'instant T de la répartition à l'échelle de la France métropolitaine des zones les plus sauvages.
Ok. Donc les conducteurs de taxis parisiens, apparemment, ne sont pas trop sauvages, en fait.
Non.
Bon, pardon, excusez-moi, c'était facile. Merci. Non, c'est clair. Et maintenant, quelle perspective, comment comptez-vous organiser la mise à jour de cette carte, sa diffusion, son partage, voilà, comment ça vit ?
Oui, alors à la fois, on a des usages qu'on a identifiés d'ores et déjà pour maintenant, et puis des perspectives à plus ou moins long terme de ce travail. Alors les usages qu'on a identifiés, alors ça répond aussi un petit peu en partie à la première question, c'est l'utilisation du format carte. Alors en tant que géographe, effectivement, la carte, c'est notre outil privilégié. Et la carte, de par son aspect graphique, est un formidable outil pour discuter, pour mettre en débat ces questions et ces enjeux de conservation de la nature sauvage. Donc ça, c'est la première chose. Et au-delà de la dimension très graphique de la carte, qui est quand même intéressante pour discuter d'idées, c'est aussi la dimension très quantitative qu'il y a derrière une carte qu'il faut avoir à l'idée. Et pour nous, ça permet d'ores et déjà d'établir des chiffres clés de la répartition et des surfaces concernées par ces espaces de nature sauvage. Donc ça c'est un premier usage qui est déjà en cours. Un autre usage, peut-être, c'est la dimension un peu scientifique qui moi m'anime, et puis mes collègues aussi. Et l'usage qu'on fait actuellement, là, c'est en cours de développement, c'est de tester finalement l'hypothèse qu'on a depuis pas mal de temps du lien entre la dimension sauvage des paysages et puis la biodiversité. On en a parlé ce soir, vous savez, comme vous le savez, on est en pleine crise de la biodiversité, et donc c'est un des enjeux aujourd'hui auxquels on doit faire face. Et l'hypothèse qu'on a, c'est que les gradients de naturalité, donc ces gradients de sauvage, sont intimement liés finalement à la biodiversité. Donc c'est l'hypothèse qu'on veut tester à présent, c'est d'une part vérifier ou pas s'il y a effectivement des corrélations fortes entre ces gradients de sauvage et puis la distribution de la biodiversité. Et puis pour être plus précis même, c'est d'identifier, et ça ce serait vraiment formidable, d'identifier des seuils de sauvage ou d'anthropisation à partir desquels on observe vraiment des modifications dans la biodiversité. Mmh. Des seuils à partir desquels on pourrait maintenir une certaine biodiversité, et inversement identifier des seuils à partir desquels la biodiversité déclinerait, sera en rupture. Okay. Et donc ça, en matière de conservation de la nature, ce serait extrêmement informatif pour orienter les politiques publiques. Et je parle de politique publique parce que ça, c'est un autre usage qui est d'ores et déjà à l'œuvre. Donc c'est une carte qui a pour objectif, en tout cas, d'être utilisée comme un outil d'aide à la décision. Et là, je le mentionne, parce que c'est une carte qui va être utilisée dans les semaines à venir dans le cadre de la stratégie nationale de la création, la stratégie nationale pour les aires protégées, oui. Donc la SNAP, qui a été signée en 2021 et qui vise et qui engage la France d'ici 2030 à protéger de manière réglementaire 30% du territoire. Et donc, pour identifier ces nouvelles zones à protéger, donc d'ici 2030, on a besoin de données, d'informations qui permettent de faire des diagnostics environnementaux du territoire. Et cette carte de la nature sauvage, donc du gradient de naturalité, pourra être utilisée notamment pour identifier ces espaces qui mériteraient peut-être de faire partie du réseau, du futur réseau national des aires protégées.
Okay. Voilà. Super, merci beaucoup, c'est hyper clair. Est-ce qu'il y a une question de la salle ? Oui, monsieur, madame, monsieur, enfin, je vois pas, désolé. Avec les projecteurs. Ah, désolé.
Excusez-moi, je pensais que c'était là-bas. Bonjour, Julie Bracade, la Fabrique des Mobilités. Moi, j'ai une question pour savoir qu'est-ce que vous appelez sauvage, en fait ? Parce que dans le territoire français, on sait très bien que la majorité du territoire était déjà transformée par l'homme. Donc, je voudrais savoir comment vous êtes arrivé à faire cette définition.
Bon point.
Oui, alors effectivement, alors là on pourrait y passer plusieurs heures en fait, mais c'est, comme je le disais, c'est un travail scientifique, donc l'idée pour nous c'est que ça repose sur des bases scientifiques solides, cette carte, c'est pas juste un outil de communication. Et donc effectivement, la première chose qu'on a dû faire, c'est dépasser finalement une idée assez communément partagée qu'on n'a plus d'espace sauvage, notamment en France, puisque l'ensemble des paysages qu'on connaît sont le fruit d'une longue transformation humaine depuis des siècles, et que par ailleurs la nature sauvage n'existe plus nulle part sur la planète, puisqu'on a déréglé le climat, et donc forcément les habitats ont évolué actuellement sous l'effet de ce changement climatique. Pour autant, on peut convenir que, par exemple, ce soir, dans le 12e arrondissement de Paris, le paysage qui nous environne est extrêmement différent que les causes du Quercy ou, par exemple, les Alpes-Maritimes, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est essayer de pas, comme vous avez pu le voir sur la carte, de pas juste identifier les espaces de nature sauvage sur lesquels il faudrait s'entendre sur des seuils à partir desquels on pourrait considérer qu'on est dans le sauvage et puis d'autres seuils à partir duquel on n'est plus dans le sauvage. Donc, pour dépasser cette difficulté, on a travaillé sur des gradients. En fait, c'est des réflexions qui sont menées depuis les années 70 par des géographes australiens, mais essayer de travailler sur des gradients spatiaux d'anthropisation et de naturalité. Et juste pour répondre simplement à la question, en fait, la carte est le fruit de trois caractéristiques qu'on a utilisées pour qualifier ces gradients de naturalité, d'anthropisation. Et ces trois caractéristiques sont l'intégrité biophysique de l'occupation du sol, qui traduit un degré de transformation de l'occupation du sol, des paysages. Une deuxième caractéristique, une deuxième facette, on a appelé ça des facettes, c'est la spontanéité des processus, c'est-à-dire à quel point les formations végétales évoluent de manière spontanée, c'est-à-dire sans entrave, sans intervention humaine. Et puis la troisième facette correspond à ce qu'on a appelé les continuités spatio-temporelles. Alors là, c'est extrêmement géographique pour le coup. On a considéré que plus un espace était grand et connecté, et plus l'espace connaissait une continuité, enfin, était le fruit d'une continuité temporelle de son habitat, par exemple une vieille forêt, et plus on attribuait un degré de naturalité à cet espace.
Ok, voilà. Impressionnant. Merci beaucoup.
Merci.